Le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour les amis, nous sommes de retour sur le plateau de Radio Immo et Radio Territoria. Je suis ravi de vous retrouver pour une table ronde inédite. Une table ronde qui va être très intéressante parce qu'on va parler de transition écologique, de transition énergétique. On va parler aussi de symbiose industrielle, d'économie circulaire, d'échange, de maillage, de synergie. Bref, on va rentrer de manière très concrète dans ces problématiques. Et moi, je vous propose de mettre en lumière plus qu'un projet, c'est une démarche vertueuse et une solution innovante pour dynamiser les territoires, les industries. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Alison Marquis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice territoire et solutions énergétiques chez EDF.
Tout à fait.
Merci beaucoup d'être avec nous. Solène Le Bourdiac à ma gauche. Bonjour Solène.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur, chercheur et chef de projet à la R&D chez EDF.
Tout à fait.
Merci beaucoup Solène. Et puis Julien Chambon. Bonjour Julien.
Bonjour.
Merci. Bonjour Monsieur le maire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes maire de Houille et conseiller départemental.
Des Yvelines.
Des Yvelines, tout à fait. Vous êtes déjà venu chez nous et c'est un plaisir
super
de vous
radio.
Recevoir, comme à savoir, comme à chaque fois. Merci, monsieur le maire. Donc, je vous l'ai dit, on va parler de symbiose industrielle, de décarbonation, d'économie circulaire, de territoire, à travers un focus sur une solution qui s'appelle Epiflex. Alors, ma première question, elle est pour vous, Alison. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur la mission d'EDF en termes de décarbonation et de transition énergétique?
Oui, avec plaisir. Et alors, la décarbonation et la transition énergétique, c'est la mission d'EDF, en fait. C'est ce que l'on fait au quotidien, de façon effectivement assez variée, puisqu'on intervient à la fois sur les grands chantiers nationaux de production d'électricité et qui se font sur les territoires, hein, en exploitant nos moyens de production nucléaires, hydrauliques, renouvelables, en développant de nouveaux moyens de production. Et pour ça aussi, on travaille au plus près des territoires, mais aussi on accompagne les territoires en tant que tels, donc les acteurs des territoires, qu'ils soient collectivités, institutionnels, universités, dans leur transition énergétique, pour trouver avec eux les solutions les plus adaptées à leurs besoins et les plus adaptées aux spécificités de leur territoire.
Monsieur le maire, s'il y a peut-être une petite explication sur l'organisation des territoires sur ces questions-là, c'est ça qui est intéressant aussi avec votre présence ici avec nous.
Oui, alors une commune, c'est forcément très urbanisé. Nous, à Houille, dans les Yvelines, on est dans une logique de conurbation, donc on a des villes voisines. On n'a pas forcément de grands centres de production d'énergie. En revanche, on produit beaucoup de déchets. Et nous, on s'est aperçu qu'on pouvait aussi alimenter directement des zones de production d'énergie grâce à nos déchets. Donc on teste ça avec l'incinérateur de la commune. Donc c'est un travail entre la commune, finalement, et après les autres niveaux d'acteurs. Hein. On va voir la région, le département, l'agglomération. Et là, en l'occurrence, on a un syndicat de traitement. Donc les communes, entre elles, s'organisent. On ramasse les déchets. Et une partie de ces déchets donc, sont brûlés dans un fourneau directement. Et ce fourneau-là va chauffer de l'eau qu'on va réinjecter dans les habitations pour chauffer l'eau chaude sanitaire. Donc là, on a un système de boucle. Nous, on est assez innovant là-dessus dans les Yvelines, mais c'est un système qui s'offre à nous parce qu'on a un outil industriel à côté. Mais nous, en tant que commune, en tant que telle, sur notre territoire, on est un peu dépendant des autres. On est vraiment la zone de consommation d'énergie très importante et on produit beaucoup de déchets. Donc on essaie aussi de travailler pour équilibrer, on va dire, notre bilan carbone à nous.
Oui, c'est une question très très importante en ce moment, surtout plus qu'à un autre moment. Epiflex, je le mentionnais, qui est un programme de symbiose industrielle. Solène, est-ce que déjà on peut expliquer ce que c'est la symbiose industrielle?
Oui, alors effectivement, donc conformément en fait à la raison d'être d'EDF, on s'est intéressé à l'économie circulaire comme outil de décarbonation. Et l'idée, c'est de faire de la symbiose industrielle, en effet. Donc c'est comment on valorise les flux perdus des sites industriels sur les territoires en mettant en place des infrastructures locales comme des réseaux de valorisation, des réseaux de chaleur. Par exemple, si on récupère de la chaleur fatale, donc la chaleur perdue des sites industriels, on s'intéresse aux eaux usées, on s'intéresse à l'hydrogène, à plein de types de flux, et en particulier ceux qui permettent de décarboner. Donc, fort de ce constat, on a lancé un projet qui s'appelle EcoCirt, qui est le projet que je pilote à la R&D. Et on a commencé à développer un certain nombre de modèles pour essayer de construire de manière systématique ces symbioses industrielles pour valoriser ces flux, donc avec les mines Paritech. Et donc on a capitalisé tous ces travaux dans des logiciels, et ces logiciels font partie de la démarche Epiflex, qui est aujourd'hui la démarche que l'on porte à la R&D d'EDF et avec les métiers d'EDF.
Un projet qui est né, comment est-ce qu'elle est née, votre réflexion sur l'énergie dans les territoires?
Bah, du coup, c'est ça. Donc, on a lancé ce projet EcoSirt parce que donc, les territoires faisaient émerger ce besoin d'économie circulaire et besoin de solutions. C'est pour ça qu'on a conçu cette démarche EpiFlex, qui est une démarche systématique avec des modèles génériques et réplicables qui permet de proposer des solutions de symbiose industrielle à partir de modèles technico-économiques qui permet d'identifier les meilleurs échanges possibles entre sites industriels et pour lesquels en fait, les industriels sont gagnants économiquement. On s'assure qu'effectivement, il y a des gains économiques pour tous grâce à ces modélisations.
Julien Chambon, l'économie circulaire, c'est quelque chose qu'on regarde ?
Alors, j'ai envie de dire, les communes sont au cœur de l'écologie du quotidien. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, nous-mêmes, on gère pour nos concitoyens leur ramassage des déchets. On va gérer la notion de transport. Donc, en fait, tout ce qui a un impact sur le bilan carbone dans notre consommation quotidienne, on est confronté à ça. Moi, maintenant, ma priorité en tant que maire, c'est de maîtriser les coûts. Mais comme nos habitants, comme les gens au quotidien qui veulent avoir la facture d'énergie la moins forte possible. Comment on arrive à la fois à associer l'écologie, la vertu, on va dire, de ne pas gaspiller les ressources et en même temps de ne pas gaspiller nos ressources financières pour qu'à la fin du mois, on puisse continuer à avoir quelque chose pour vivre. Et ça, c'est quelque chose qu'on va traiter à travers nos différentes politiques publiques. J'ai cité pour les déchets qui se traitent avec les autres communes également. Nous, on a une demande très très forte de nos habitants. Par exemple, sur la gestion des déchets en apport volontaire, en compostage. Alors nous, on a choisi plutôt d'apporter les déchets alimentaires dans des zones dédiées à ça. Les habitants apportent leurs déchets au quotidien et on crée avec du gaz, donc on a un système de réseau. La vraie difficulté qu'on a pour ça, la vraie difficulté en tant que maire, c'est d'avoir un système qui est pérenne. Si je veux garantir à mes habitants de payer moins cher leur énergie, il faut que le système industriel soit soutenable économiquement, sinon c'est nous qui allons payer à la fin. Et ça, c'est la grosse obsession et la grosse question des élus. C'est de jamais s'embarquer dans un dispositif où, à la fin, on paye toujours plus cher. Et là, pour moi, l'économie circulaire, elle doit vraiment faire rimer et l'écologie et l'économie. Sinon, c'est un système où on peut tomber vite dans le gadget. Et surtout, vous pouvez perdre la confiance de vos habitants. Parce qu'à la fin, ils payent, comme tout le monde, la taxe d'ordure ménagère. Si elle explose, ça fait mal au porte-monnaie. Et ça, c'est notre engagement en tant qu'élu local. On doit trouver des systèmes pérennes.
C'est hyper important, Alison, un système pérenne d'arriver auprès des collectivités, de leur dire on a une solution, on a un système et il est pérenne, il fonctionne.
Oui, tout à fait, c'est vraiment ce que disait Monsieur le maire, il l'a illustré parfaitement en fait. L'économie circulaire, elle repose sur le fait que la collectivité a compris qu'il y avait une interdépendance des uns des autres. Vous disiez à juste titre, en fait, nous on est totalement dépendants de l'usage qu'on fera des déchets des autres. Donc c'est exactement ce qui fonctionne sur le territoire. Une fois que la collectivité a compris ça, qu'elle entre dans cette démarche de co-construction en s'appuyant sur l'ensemble des acteurs et en générant une forme d'interdépendance. Et c'est ça qui, in fine, fait aussi la soutenabilité dans la durée du projet. Et donc c'est effectivement ce qui s'est passé à Dunkerque, là où on a mis en œuvre, puisque donc, ce que Solène nous présentait tout à l'heure, cette solution qui s'appelle EpiFlex, on l'a mise en œuvre dans le Dunkerquois.
Elle a déjà été testée, elle a déjà été déployée, et notamment effectivement à Dunkerque.
Exactement, et c'est exactement ça. Et en fait, c'est là que le territoire du Dunkerquois aujourd'hui, que l'on cite, vous me le disiez avant que l'émission démarre, aujourd'hui, Dunkerque fait figure d'emblème, de modèle dans sa transition énergétique. Bah, c'est parce qu'ils ont commencé, ils ont initié très tôt ce genre de démarche et que même il y a 10 ans, vraiment, et là le mérite revient à la collectivité, ils ont identifié qu'ils étaient plutôt un territoire, si je puis dire, en déclin, qui perdait des emplois, qui était fortement émetteur de CO2. Aujourd'hui, le Dunkerquois représente 20% des émissions de CO2 industrielles en France.
C'est
donc
énorme.
Il y a un gros chantier, exactement. Et donc ils se sont dit, on aimerait à ne pas devoir renoncer à notre industrie, ne pas devoir renoncer à nos emplois, tout en menant la transition énergétique. Et donc ils ont initié cette démarche-là en se disant, pour ce faire, je vais devoir aller chercher l'appui de la collectivité, donc à l'initiative de la communauté urbaine de Dunkerque, du grand port maritime de Dunkerque aussi, qui a un rôle fort à jouer là-dedans, des industriels et des acteurs de l'énergie, mais aussi des universités, puisque l'université est impliquée. Les CCI aussi ont joué leur rôle là-dedans. Donc c'est comme ça qu'est née cette genèse. Et c'est effectivement, pour que le modèle soit soutenable et durable, il faut l'implication de tous. C'est très important.
C'est important de dire que la demande est venue du Dunkerquois. Elle est venue vraiment de la ville, de la région, pour dire, OK, on a une problématique. Est-ce que vous pouvez nous aider à la gérer ?
Disons que les besoins ont croisé notre solution à un moment où on avait aussi envie d'aider. EDF, c'est l'une des forces d'EDF, on a une très forte proximité territoriale.
Oui, il y a un
maillage. Donc notre métier, on maille, et notre métier, c'est de connaître la collectivité qu'on a en face de nous, les acteurs que l'on a en face de nous et leurs besoins. Et c'est là qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'ils avaient un besoin, qu'on avait un outil pour y répondre. Et donc, naturellement, le déploiement d'Epifex s'est mis en place sur ce territoire-là avec l'implication de tous. Et vraiment, c'est très important, je le souligne. Les industriels se sont impliqués aussi. La CCI s'est impliquée, les acteurs de l'eau, le syndicat de l'eau du Dunkerquois s'est aussi impliqué, l'AGUR, l'agence de développement, voilà, c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. Et donc c'est parce que les besoins se sont croisés à un moment et l'approche elle a vraiment été co-construite. Je crois que le mot de co-construction il est important aussi dans ces démarches-là.
Et Solène, j'imagine que c'est intéressant aussi d'avoir une vraie volonté de la part des élus, de la part des collectivités en R&D, parce que ça permet aussi d'arriver avec un modèle et pourquoi pas l'adapter au fur et à mesure du projet en fonction des problématiques des uns et des autres.
Oui, c'est très important parce qu'effectivement, quand on arrive avec des modèles génériques, bon, bah, on peut dire que ça s'applique partout, oui. Mais il faut s'adapter aux spécificités du territoire. Chaque territoire a ses spécificités. Par exemple, nous, si je peux citer une anecdote, on est arrivé en disant bah, voilà, on pense qu'il y a du potentiel d'études ici à Dunkerque, sur le côté du port à l'ouest, et en fait on nous a dit bah attendez, votre projet vous pouvez pas le faire si vous intégrez pas aussi ces industriels là qui sont très importants politiquement sur le territoire. Et donc comme quoi voilà, dans nos modèles on modélise pas la politique, mais c'est indispensable d'avoir les retours des industriels pour sentir en fait le climat et savoir quels sont les enjeux pour réussir ce projet de symbiose. Donc c'est aussi grâce au territoire qu'on a pu collecter les données.
Ouais.
On avait besoin d'un acteur, un tiers acteur de confiance pour aller chez les industriels et collecter les données. Et donc à partir de ces données, on a pu faire nos scénarios technico-économiques avec donc l'ensemble des modèles de la démarche Epiflex, et ce qui nous a permis d'obtenir des résultats vraiment très intéressants.
Donc vous avez créé un modèle, une démarche qui est réplicable.
Voilà.
Mais à chaque fois, vous intégrez dans la collectivité et vous adaptez à la collectivité.
Oui, ben on modélise les données locales, c'est-à-dire que les flux entrant-sortant des sites industriels réellement géolocalisés sur le territoire. Donc on tient compte des distances, des flux avec les données réelles. Donc ça, c'est spécifique à chaque territoire, à chaque site industriel.
J'imagine que c'est intéressant pour une collectivité de voir qu'un acteur très important arrive avec un modèle qui fonctionne et de se dire « Ok, je m'adapte à votre territoire, à vos problématiques. »
Oui, alors surtout que nous, encore une fois, en banlieue, la terre est rare, le foncier est rare.
Ouais.
Donc plus il y a de plus-value, j'ai envie de dire, plus on apporte une solution aux communes pour trouver des énergies, on va dire, soutenables, produites avec une localité, et mieux c'est. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il faut réussir à convaincre les élus en leur montrant que, un, ça va permettre de maîtriser les coûts. Regardez ce que la guerre en Ukraine a comme effet sur nos collectivités. Mmh. On a eu le gaz qui a explosé x2, on a l'électricité qui a explosé x2, on a tous eu nos budgets presque à genoux. Ça a été pareil pour nos habitants un an après. C'est encore l'État qui a dû essuyer les plâtres et compenser le filet de sécurité. Donc nous, on a besoin de pouvoir avoir des solutions qui sont locales, qui sont pérennes, mais j'insiste beaucoup, qui sont économiquement viables. Parce que, encore une fois, l'écologie, pas punitive, mais culpabilisante, elle ne sert à rien, ouais. Parce qu'elle va juste faire stresser les gens.
Après,
tout le monde est en surstress. Nous, on le voit bien, on a incité les Français à trier le papier quand la filière industrielle n'était pas capable de le recycler. Il faut le dire aussi, il y a des moments où la maturité industrielle, si elle n'est pas au rendez-vous, on arrive des fois à des échecs de mobilisation collective. Donc les gens, ils ont envie, mais il faut vraiment réussir à convaincre les territoires que le dispositif qui sont portés par les entreprises, il vraiment apporte ces synergies-là. Donc je trouve ça vachement intéressant de faire dialoguer un peu ces différents univers. L'habitat, les collectivités, les entreprises, et puis vous, l'énergéticien au milieu, quelque part, parce que ça nous apporte des garanties de pérennité du dispositif. C'est comme ça que je le vois spontanément à l'échelle du territoire parisien, en tout cas à l'échelle de où il y a des Yvelines.
Alison ?
Oui, j'irai même un peu plus loin, c'est-à-dire que c'est derrière ce qui va recréer l'attractivité du territoire. Là, typiquement, parce qu'on a réussi à mettre ça en place, cet outil-là, qu'en fait, s'en est dégagé une solution sur l'usage de la chaleur, de la vapeur dans le Dunkerquois. Donc, l'une des issues directes des travaux d'Epiflex, c'est d'avoir identifié un gisement de ce qu'on appelle la chaleur fatale. Mm-hmm. La chaleur fatale, c'est la chaleur qui part aux petits oiseaux dans les process industriels. Ça représente en fait quasiment la moitié des usages de la chaleur partent aujourd'hui dans aux petits oiseaux dans les processus industriels. Donc il y a une utilisation majeure à en faire.
Il faut la capter
et la réutiliser dans les process industriels. ça peut se faire dans l'usine concernée et ça peut se faire dans les usines voisines, dans les réseaux de chaleur des collectivités pour derrière alimenter les habitants.
Vous voyez, tout à fait,
Donc ça peut se faire et donc c'est ce qui a été identifié sur le Dunkerquois avec le potentiel de 27 km de réseaux de chaleur à recréer sur la base de cette chaleur phasale pour aller alimenter certains industriels existants, mais surtout à proposer comme moyen dans le procédé industriel de nouveaux industriels. Et c'est entre autres grâce à cela que les gigafactories, les fameuses gigafactories dont on parle beaucoup sur le Dunkerquois, pour ne pas les citer, Vercors et Prologium, ont aussi décidé d'arriver sur le territoire, de s'installer à cet endroit-là, grâce au double effet, et là bah, je redis grâce au double effet des actions d'EDF, des travaux d'Epiflex avec cet accès à une chaleur recyclée, d'une certaine façon, ouais, réutilisée, vertueuse, et donc à un coût le plus attractif possible, et l'accès à proximité d'une énergie décarbonée avec la centrale nucléaire existante de Gravelines, les futurs EPR2 qui sont en cours de débat public aujourd'hui à Gravelines, mais également le parc éolien offshore qui est en cours de construction à Dunkerque. Donc c'est vraiment cet écosystème-là, énergétique, qui a créé les conditions favorables de la réindustrialisation de ce territoire et d'une réindustrialisation qui n'aggrave pas l'empreinte carbone du territoire, voire qui la diminue.
C'est un triple effet qui se coule même, parce que exactement, derrière, ça bénéficie aussi à la population qui est à côté. C'est génial. Attractivité du territoire, ça bénéficie à la population, et puis décarbonation, transition, etc. C'est génial.
Le développement de l'emploi local aussi.
Et développement de l'emploi local, effectivement. C'est important aussi de dire qu'il y a eu cet exemple Dunkerquois. Il y a aussi Fos-sur-Mer qui a été une réussite. Pareil, à peu près même cause, même conséquence que Dunkerque, même problématique sur Fos-sur-Mer.
Alors, on a répondu effectivement avec les équipes commerciales un appel à projet sur Fos-sur-Mer où on a travaillé avec l'association Picto, qui est l'association locale, pour faire des scénarios Epiflex. Donc, alors la suite de l'histoire, c'est comme à Dunkerque en fait, c'est le ZIBAC qui s'appelle Sirius. Et donc, dans ce cadre-là, il y a la mise en œuvre des solutions. Et ça va, voilà, en fait, une feuille de route de décarbonation avait été proposée dans le passé donc par EDF. Et donc, il y a les suites qui se mettent en œuvre par les. Donc, ZIBAC, c'est les zones industrielles bas carbone, donc c'est les appels à projets de l'ADEME. Et donc c'est des financements pour aller plus loin dans les études, pour aller jusqu'à la réalisation.
Alors il y a récemment, le Premier ministre Michel Barnier, il a parlé dans son discours de politique générale de réindustrialisation de la France. Il y a une forte volonté de réindustrialisation. La demande, la matière, elle est forte. Et en fait, ma question c'est, est-ce que ce type de modèle d'Epiflex, il est compatible avec l'industrialisation, avec la réindustrialisation? Et comment on fait pour allier décarbonation et réindustrialisation? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas un antagonisme?
Non, bien au contraire. Justement, c'est ce qu'on essaie de démontrer au quotidien. Et c'est ce que je disais juste avant avec l'exemple des gigafactories qui sont arrivées sur le territoire motivées par ce facteur réutilisation des industries existantes et des émissions des industries existantes, tout en s'appuyant sur l'électricité, effectivement faiblement émettrice de CO2, qui est celle d'EDF. Et donc là, si on prend un petit peu de hauteur, c'est l'un des chantiers clés d'EDF, c'est de faire en sorte justement que décarbonation et réindustrialisation ne soient pas incompatibles. On y travaille aujourd'hui, on a déjà aujourd'hui le parc électrique d'EDF en France, il est à 98% sans émissions de CO2. C'est énorme, on s'en rend pas compte. Je pense qu'on se rend pas bien compte de la chance qu'on a de se trouver là en France par rapport à des pays voisins bien plus émetteurs. C'est-à-dire que consommer de l'électricité notamment en France, exactement, l'Allemagne est un très bon exemple de pays qui consomment de l'électricité ou qui, quand on consomme de l'électricité, on émet du CO2. Ça n'est pas le cas aujourd'hui en France, ou très faiblement. Et ça, c'est un avantage énorme.
Parce qu'on râle beaucoup les Français, mais on ne se rend pas compte de la chance qu'on a.
Oui, tout à fait. Et donc, effectivement, on a un avantage compétitif qui est énorme pour mener cette transition énergétique. Et donc, c'est pour ça que nous, on croit fermement au fait que, il faut garder cet avantage compétitif qui est un mix énergétique nucléaire, hydraulique, renouvelable, j'y reviens pas, et qui est un allié majeur pour mener la transition énergétique. Il faut continuer à investir dans nos moyens de production. Ce sont les chantiers de PR2 qui sont en train de se bâtir sur le territoire. Ce sont aussi, évidemment, continuer à investir dans les énergies renouvelables, continuer à investir dans notre parc hydraulique, ce qui est très important. Mais c'est aussi, effectivement, agir auprès des territoires, auprès des industries, pour réutiliser les usages et faire de ce qu'on appelle de l'efficacité énergétique. Ça consiste simplement en optimiser les usages énergétiques dans un process industriel pour consommer mieux, pour consommer moins. Et on croit aussi qu'il y a un grand rôle à jouer de l'électricité dans ces usages-là, c'est-à-dire convertir des usages fossiles, donc émetteurs de CO2, par de l'électricité pour diminuer les émissions de CO2 dans chacun des process. Et donc, c'est vrai pour les processus industriels, c'est vrai dans les collectivités. Donc, c'est passer à la pompe à chaleur, effectivement, à des chaudières électriques, réutiliser les usages de chaleur fatale dans les réseaux de chaleur. Et ça, ça concourt à la réindustrialisation du pays sans renoncer à la transition énergétique. Et donc, on y travaille fortement à travers des objets comme Epiflex et à travers toutes les solutions qu'on peut proposer aussi aux industries, aux collectivités qui sont nombreuses. On n'a pas parlé du transport, mais c'est un autre levier sur lequel EDF agit auprès des collectivités et des industries pour également décarboner le transport, qui est l'un des plus gros émetteurs de CO2 en France aujourd'hui.
En fait, la réindustrialisation du pays, elle part de la collectivité.
Je pense qu'encore une fois, à l'échelle de l'écologie du quotidien pour les habitants, on a vraiment une stratégie à porter. Qu'est-ce qu'on consomme le moins possible? Comment on consomme le mieux possible? La première étape, c'est vraiment d'être réussi à le plus sobre possible. En fait, la meilleure énergie qui soit, c'est celle qu'on ne consomme pas, pour garder quand même notre quotidien auquel on tient.
Ouais.
Donc nous, les Aubillois, par exemple, ils vont massivement prendre le RER tous les jours, ils vont massivement prendre le vélo pour aller à la gare. Donc on va avoir dans les pratiques de transport déjà des pratiques très vertueuses et qui ne coûtent pas grand-chose et en plus qui entretiennent la bonne santé. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui n'a pas un impact négatif sur les gens. En revanche, si on veut travailler sur l'énergie, comment on aide surtout les gens à moins consommer? Nous, c'est tout l'enjeu de la rénovation de l'habitat qui va nous caractériser pour une ville résidentielle comme Houille. On a des belles maisons, des maisons anciennes qui consomment beaucoup. La première étape, c'est comment les gens réussissent à investir dans leur propre habitat. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ensuite, nous, en tant que collectivité, on a un parc immobilier gigantesque. Je dois avoir à peu près 55 chaudières à gérer. Ça équivaut peut-être à une trentaine ou une quarantaine de bâtiments. Comment on va déjà travailler sur la sobriété? Et on se rend pas compte à quel point cette première étape, elle prend quand même du temps pour trouver les ressources nécessaires à l'investissement. Donc la production d'énergie, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu la fin qui vient donner du sens à tout ça. Mais pour nous, les collectivités, comme nos habitants, c'est vraiment consommer moins, pouvoir avoir un quotidien où on n'a pas besoin de consommer de l'énergie. Et ça, c'est nos politiques publiques, nos choix d'investissement, on le voit. Mais c'est aussi des outils industriels qu'on va mobiliser derrière pour apporter l'enveloppe, l'isolation thermique par l'extérieur à nos bâtiments. On a la construction hors site qui se développe énormément. On renouvelle, nous, par exemple, dans les communes, un patrimoine ancien vieillissant par des bâtiments qui sont dessinés en usine, préfabriqués. On gagne du temps sur les chantiers. Ils sont optimisés pour la consommation énergétique. Et donc, ce sont des filières qu'on arrive à relocaliser en France. Donc, on le voit bien, l'objectif, vraiment, il est aligné entre les habitants, les communes et les industriels. Mais pour ça, il faut d'abord partir du principe même que l'important, c'est de consommer moins d'énergie. C'est la première étape.
De consommer moins d'énergie et de maîtriser la consommation aussi d'énergie, la production d'énergie. Solène, j'imagine qu'en matière de R&D, je fais peut-être un peu d'hors sujet parce que là on parle de symbiose industrielle, mais en fait en matière de R&D, les possibilités sont multiples. Sur cette maîtrise de l'énergie, sur cette consommation de l'énergie, sur ces symbioses à avoir et pas que industrielles.
Parler des suites
Oui, des suites. Par exemple, monsieur le maire disait pour les parcs d'habitation, peut-être qu'on peut là aussi faire de la symbiose, peut-être qu'on peut là aussi faire de l'optimisation. En fait, il y a plein de choses à faire. Peut-être que la ville de demain, la ville du futur, la collectivité du futur, en fait, sera une immense symbiose énergétique.
Alors déjà, Epiflex propose de relier les zones industrielles aux villes, puisque en fait, les ressources sont dans les zones industrielles et les villes ont des besoins. Donc c'est déjà d'ailleurs ce qui existe à Dunkerque depuis les années 80. Donc les hauts fourneaux d'Arcelor chauffent la ville de Dunkerque.
Okay.
Donc c'est quelque chose qu'on sait faire, mais qui devrait se déployer davantage. C'est pour ça que Epiflex permet de faire les études technico-économiques pour déployer plus ce type de modèle-là. Et donc après, sur la ville de demain, il y a plein de choses à faire. Et effectivement, la R&D travaille là-dessus. Moi, pas spécifiquement.
Pas vous spécifiquement. Solène, on les a évidemment un peu déjà abordés, mais est-ce qu'on peut parler des impacts immédiats et concrets lorsque Epiflex est déployé?
Alors, donc, moi, je peux parler des résultats de l'étude.
Ouais.
Et effectivement, Alison pourra parler des débouchés sur le territoire, même si on a déjà dit quelques mots. Donc, les résultats des études, c'est donc on peut valoriser 1,3 TWh de chaleur fatale sur le territoire. Il faut savoir que sur la zone dunkerquoise, il y a énormément de chaleur parce qu'il y a 5 gros sites de la métallurgie. Et donc l'objectif, le but du jeu, c'était un peu de savoir vers quoi on allait amener cette chaleur. Donc vers des sites qui ont besoin de chaleur. On a traité aussi la problématique de froid, donc en transformant le chaud en froid. Et aussi, on a traité en parallèle, en fait, la problématique de l'eau en utilisant la chaleur fatale pour produire de l'eau à qualité distillée. Et donc, du coup, en termes de gains, donc en valorisant ces 1,3 TWh de chaleur, on peut économiser 43 000 tonnes de CO2 par an et 1,5 million de mètres cubes d'eau par an. Donc ça, c'est les études Epiflex qui proposent ces solutions, donc en mettant en place un certain nombre de technologies et d'infrastructures. Et donc après, sur le territoire, voilà, les choses se font de manière échelonnée. Et donc, on a d'abord, le territoire s'est d'abord saisi de la question de la chaleur. Donc Alison peut témoigner de ce qui a été lancé ensuite vraiment localement.
Ouais, tout à fait. Je peux rappeler ce qui a été fait, c'est qu'en fait, du coup, suite à ces études et les résultats, donc on a identifié cette espèce de ce qu'on appelle l'autoroute de la vapeur en fait sur le Dunkerquois, qui donc vient chercher cette chaleur fatale inutilisée pour la réinjecter dans les process, notamment potentiellement de la Gigafactory Vercors. Qui pourra donc utiliser cette chaleur, du coup, effectivement, décarbonée, réutilisée dans son processus. On peut citer un autre exemple qui est celui de l'usage de l'eau, qui est très important aussi, et donc sur lequel on a aussi une expérimentation sur le territoire qui est une suite d'Epiflex et qui permet, donc, par une technologie développée à la fois par une start-up, par l'appui d'EDF et par les mines ParisTech, de réutiliser l'eau par un processus de membrane distillaire qui permet de nettoyer les eaux usées pour les remettre dans le process. Et ce nettoyage des eaux usées, il se fait par la chaleur fatale, basse température, et du réseau de l'entreprise en tant que telle. Donc là, on est vraiment dans une boucle extrêmement vertueuse au sein de cette usine. C'est expérimenté au sein d'une usine qui s'appelle Ryson Alcohol dans le Dunkerquois, et qui permet là aussi, donc on avait identifié que là, il y avait quelque chose à faire à la fois sur l'eau avec la chaleur dans cette usine-là pour tester cette technologie-là. Donc là aussi, encore un cercle vertueux et une implication directe sur le Dunkerquois. Après, il y a une question qui est fondamentale, qui a été largement évoquée par monsieur le maire et sur laquelle on n'est pas encore revenu, c'est celui des financements.
Oui.
J'y pense parce qu'effectivement, c'est un peu la clé dans la suite de tout ça.
C'est le nerf de la guerre.
C'est le nerf de la guerre. En fait, pour que ces innovations émergent, il faut là, et ça a été le cas sur le Dunkerquois, souligner le rôle de l'ADEME, qui est d'ailleurs juste à côté de nous sur le stand, qui a vraiment joué un rôle fondamental, d'abord dans le soutien du projet en tant que tel, puis dans le lancement des appels à projets qu'ils appellent ZIBAC, donc Zone Industrielle Bas Carbone, qui viennent justement financer les études qui doivent servir au territoire pour se décarboner. Donc certaines zones ont été identifiées, et donc Epiflex a d'abord pu bénéficier du soutien de l'ADEME financièrement. Évidemment, EDF y a mis aussi de sa poche, le Grand Port Maritime de Dunkerque y a mis aussi un petit peu de sa poche. Voilà, il y a eu une contribution un peu de tous pour qu'on y arrive. Et derrière, la poursuite des études par exemple sur l'autoroute de la vapeur ont pu être inclus dans le fameux ZIBAC que j'évoquais dans l'appel à projet de l'ADEME. Donc ça, c'est le rôle de l'ADEME dans la capacité à faire émerger des innovations et à aider à donner le petit coup de pouce en amont au territoire. Et après, il y a la question de la soutenabilité une fois que le projet se lance. Et là, c'est vrai que c'est clé et qu'on y arrive parfois, on n'y arrive pas encore toujours. Parce que effectivement, il y a des enjeux de portage de risque, il y a des enjeux de financement des CAPEX, financement des OPEX, si on rentre un peu dans la technique, qui ne sont pas toujours très simples quand on met en place ce genre de projet. Et là, on a besoin un peu de tous les acteurs. Les banques se lancent un petit peu sur ces sujets-là. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous sur la transition énergétique parce que on a besoin aussi de ces financements-là et de ces acteurs-là pour émerger au-delà de ce qui peut être initié par l'arrêt des EDF.
De toute façon, les banques ont des obligations en matière d'ESG, de critères ESG. Donc j'imagine que ce type de projet rentre pleinement dans ces critères-là.
Ils peuvent y rentrer et après, c'est parfois des montages qui sont nouveaux, qui ne se faisaient pas jusque-là. Donc c'est des choses aussi sur lesquelles on travaille en partenariat avec certaines banques du territoire. Et effectivement, c'est la clé du succès sera aussi là, évidemment, dans notre capacité à financer et à faire en sorte que ces projets ils soient durables. On est convaincus de cette boucle vertueuse énergétique, elle existe, elle est là. Maintenant, effectivement, il faut lancer les projets et ça a quand même un coût en termes d'infrastructure, en termes de renouveau des process, des procédés industriels. Et donc, pour ce faire, on a besoin de l'implication de tous les acteurs et également des acteurs financiers.
En tout cas, la boucle vertueuse, elle l'est aussi en matière d'économie. C'est une économie vertueuse aussi qui est mise en place.
C'est ce qu'on souhaite.
Est-ce que c'est important pour un tel projet d'être suivi par une équipe R&D ? J'imagine que ça assure un sérieux, ça assure un meilleur suivi, c'est rassurant aussi pour les collectivités.
Ah, c'est fondamental, la R&D d'EDF.
Ça rassure le terme R&D tout de suite, on se dit que c'est sourcé, que voilà.
Oui, ça veut dire qu'effectivement c'est cherché, c'est étudié. La R&D d'EDF, elle a une vraie réputation. EDF, on est reconnu pour notre expertise, c'est une force. Et effectivement, c'est notre façon de faire les choses, même quand on va apporter des solutions, même quand on vend des solutions.
J'ai une équipe R&D derrière Exactement. Moi, je viens vous voir et j'ai une équipe R&D.
Ouais, et puis on est fort de plus de 30-40 années de R&D pour le groupe EDF sur plein de sujets variés, hein, Solène ne le disait pas, mais effectivement, par exemple, la R&D d'EDF, elle travaille sur ce qu'on appelle les réseaux intelligents, les smart grids, et qui répond totalement à la problématique de monsieur le maire sur voilà, comment une collectivité elle interagit sur l'ensemble de ses données, qu'elles soient énergétiques ou autres. Et donc ça c'est des sujets sur lesquels on travaille depuis très longtemps, on a un temps d'avance et quand on apporte une solution elle fonctionne. On peut prendre l'exemple par exemple de la recharge intelligente des véhicules qui se met en place là petit à petit, on a de plus en plus d'usages qui émergent et qui visent à faire en sorte que quand on a un véhicule qui se recharge sur une borne de recharge électrique, eh ben, on gère intelligemment le passage de l'électricité vers la borne, au passage de la batterie du véhicule vers la borne pour un usage maximal et bien équilibrer les réseaux électriques.
Et une optimisation. En plus, j'imagine qu'avec l'électrification massive qu'on nous demande, à 2035, il y aura une interdiction de vente des véhicules thermiques. Il y a quand même toute une augmentation de la consommation électrique qui va arriver. Et c'est très important d'avoir aussi un réseau qui tienne et un réseau qui soit optimisé.
Alors oui, exactement. Donc on investit massivement dans les réseaux. Il y a un gros travail qui est fait effectivement aussi par le groupe EDF à travers ses filiales que sont Enedis et RTE pour que effectivement les réseaux soient en capacité de soutenir cette transition énergétique qui passe du très global avec des moyens de production surpuissants, si je puis dire, que sont par exemple une centrale nucléaire, à des réseaux qu'on dit décentralisés avec de l'autoconsommation, de l'autoproduction, du réseau intelligent qui communique entre lui. Donc ça, c'est le rôle du réseau qui doit jouer ce rôle-là et dans lequel on doit investir pour qu'il soit en capacité de le soutenir. À cela s'ajoute un risque climatique accru qui met aussi un peu en péril nos réseaux. Donc on travaille évidemment là-dessus. Pour qu'on puisse soutenir cette transition, si je puis dire, électrique, hein, c'est ce que je disais, une transition électrique, tout en s'assurant effectivement qu'on incite aussi à la sobriété. C'est un élément clé, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est évident qu'on le fait en parallèle, voire même en général quand on va voir nous une collectivité. Moi, quand je vais voir une collectivité, on leur dit que la première chose à entreprendre, c'est de bien comprendre sa consommation.
Exactement.
Pour pouvoir la réduire. Donc évidemment, c'est la première étape, elle est presque amont à tout ce qu'on s'est dit. Si une collectivité doit commencer par quelque chose, c'est celle-ci. Et on travaille évidemment en parallèle à l'électrification, à la sobriété, au consommer mieux. C'est extrêmement important pour nous.
Tout part de la compréhension, de l'analyse de la situation. Et à partir de ça, on adapte le modèle.
Exactement.
Monsieur le maire, vous voulez réagir ?
Oui, non, je pense que ça a été dit. Il faut qu'on comprenne bien la notion d'aménagement du territoire également.
Ouais.
Qu'est-ce qui est exploitable, qu'est-ce qui est consommé, qu'est-ce qu'on peut moins consommer et comment après on peut trouver des solutions techniques. Moi, je pense par exemple à tous les toits plats qu'on a beaucoup en zone urbaine, sur un supermarché, sur un bâtiment technique, où là, on va avoir une surface gigantesque qui ne sert strictement à rien.
C'est vrai.
Donc, on peut demain réfléchir à l'électrifier. Après, il faut penser le modèle. On a même des modèles, on parlait un peu d'effet papillon à demi-mot, on peut industrialiser, pas forcément sur un même site, mais aussi en démultipliant l'effort. Et comment on peut rendre service aux gens individuellement en démultipliant cet effort, certes dans la sobriété pour eux-mêmes, mais aussi dans la capacité à produire. On n'est pas aujourd'hui encore capable, je trouve, de penser une zone de production d'électricité qui serait déployée parfois par les citoyens eux-mêmes avec leur habitat, par les collectivités par leur habitat. C'est encore un petit peu éphémère, je sens que ça émerge. On peut avoir des zones comme ça de fabrication d'électricité où la ville n'investit pas forcément. Il y a un modèle économique qui est sécurisé, ça peut être les particuliers qui investissent et ils bénéficient de leur électricité. Nous, on mettrait à disposition nos espaces communs, qui par définition appartiennent à la commune et sont communs. Et là, on peut exploiter des espaces qui sont aujourd'hui totalement perdus. Moi, je réfléchis plutôt à ce type de modèle où les gens, par nos propres moyens liés à la commune, on arrive à apporter des solutions concrètes. Mais pour ça, il faut qu'on ait un modèle économique, il faut qu'on ait des intermédiaires qui apportent cette sécurité-là, cette modélisation. On ne fait pas n'importe quoi, ce sont des investissements lourds. Si on ne veut pas continuer à enrichir l'industrie chinoise électrique, excusez-moi, il faut qu'on soit capable de le faire en France. Parce que sinon, les batteries des voitures sont chinoises, les panneaux solaires, ils sont chinois. Qu'est-ce qu'on vous dit à vos habitants ? Vous allez être dépendants de la Chine, alors qu'on parle d'écologie ? Elle est où la cohérence ? Si nous, on n'a pas de proposition industrielle, à un moment donné, on a l'air un peu idiot devant les habitants. Parce qu'on ne peut pas continuer à fabriquer de l'électricité avec des matériaux qui sont fabriqués à l'autre bout du monde. Ou alors, excusez-moi, c'est quoi l'écologie ? Donc là, non, il faut qu'on arrive à trouver de la cohérence.
C'est pour ça qu'on est content d'avoir les gigafactories de production de batteries qui arrivent en France.
Ça, c'est bien.
Et non, mais pour rejoindre ce que vous disiez, alors effectivement, les démarches d'autoconsommation collective et les modèles qui permettraient effectivement, pourquoi pas une collectivité, d'investir dans un parc de production pour que l'électricité bénéficie à ses habitants. Donc c'est des modèles qui émergent. Il y a un enjeu réglementaire qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'est pas producteur qui veut, n'est pas producteur et ne revend pas de l'électricité qui veut.
On peut pas tout faire n'importe comment, c'est important.
Voilà, exactement. Et aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut pas faire d'un point de vue réglementaire. Donc ça aussi, ça fait partie des modèles réglementaires d'usage des réseaux et de la revente d'électricité qui sont en train de se clarifier et qui sont en train de d'émerger. L'autoconsommation collective, elle se développe de plus en plus. Et là où on a des difficultés aussi, si on veut être très concret, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'installer une centrale photovoltaïque, donc une centrale de production à base de solaire, sur une toiture neuve que sur une toiture existante. Et donc, effectivement, si vous voulez installer des panneaux photovoltaïques sur le toit, d'un gymnase qui est très ancien, vous allez faire face à des problèmes de structure qui vont, du coup, impliquer un investissement colossal pour mettre du photovoltaïque. Et donc se pose la question de la soutenabilité et de la rentabilité. Donc on fait face à des problématiques très concrètes, effectivement.
En fait, il y a une symbiose à trouver, là aussi.
Oui, oui, mais ça va venir, effectivement. C'est en train de se mettre en place. Ça vient aussi avec... grâce à la R&D, grâce à des marchés en croissance, un marché qui est en croissance fait que du coup, effectivement, les temps de retour sur investissement, ils s'améliorent chaque jour un peu plus. Et donc, effectivement, on voit là où le photovoltaïque, pour prendre cet exemple-là, ne se développait pas ailleurs, commence à se développer aujourd'hui parce que les temps de retour sont meilleurs, que les prix baissent, le marché est en croissance. Donc, aujourd'hui, un particulier peut autoconsommer, il peut aussi réinjecter sur le réseau en échange de revenus sa production. Mais les boucles de ce qu'on appelle d'autoconsommation collective dans toute leur complexité, là, il y a un petit travail de modèle, de réglementation, effectivement, mais qui émerge.
Avant de conclure cet échange, on a un petit incident de caméra, ça fait partie du direct. Solène, si on revient sur Epiflex, c'est quoi un peu les perspectives là pour les maintenant que le système il marche, il a été testé, il a été approuvé. C'est quoi un peu les perspectives pour Epiflex dans les semaines, dans les mois à venir?
Du coup, donc déjà Epiflex, c'est une marque que la R&D vient de déposer. Donc l'idée, ça va être de construire l'offre aussi au sein du groupe EDF. Donc, déjà le marché, c'est tous les territoires d'industrie. Tous les territoires qui ont besoin de se décarboner.
Il y en a beaucoup en France.
Et je crois que c'est 85 territoires d'industrie, typés territoires d'industrie, mais après, il y a aussi finalement toutes les zones où il y a. On peut commencer à faire de la symbiose avec déjà deux sites industriels. Donc il n'y a pas besoin d'être Dunkerque
et d'émettre
20% des émissions CO2. On peut faire de la symbiose à beaucoup plus petite échelle.
À partir du moment où on a une activité industrielle, on peut faire de la symbiose.
Voilà, tout à fait. Il faut juste que les sites ne soient pas trop loin les uns des autres. Mais si on a déjà une petite densité, même deux sites proches, on peut déjà mettre en place quelque chose. Ensuite, nous, on continue clairement à la R&D, on continue le développement des modèles. Donc, on continue à travailler sur la question de l'eau, comme le disait Alison, avec la start-up, pour continuer à valider la technologie et l'intégrer dans nos modèles. On travaille sur l'hydrogène, on travaille sur l'usage de l'hydrogène sur le territoire, donc avec la question des e-carburants. Donc, tout ça, c'est des modèles qu'on continue à insérer dans notre... dans nos outils et également couplé avec une vision prospective parce qu'on sait que le territoire demain, 2030-2050, il va énormément évoluer en termes de besoins, la question de l'hydrogène notamment.
Et de réglementation probablement.
Et de réglementation. Alors la réglementation pour le moment on ne la modélise pas dans nos outils, mais effectivement on, en termes de coûts par exemple, on essaye de regarder les quotas carbone, comment ça évolue, faire des scénarios avec les évolutions des coûts. Mais déjà, identifier les besoins demain pour commencer à projeter les infrastructures nécessaires donc, avec les modèles, ça c'est indispensable pour que les territoires voient en fait leur feuille de route, enfin construisent leur feuille de route et voient où ils vont et comment se projeter, parce qu'il y a énormément de choix possibles aujourd'hui. Et comment aider à la décision les territoires en termes d'arbitrage technico-économique, donc il faut que ce soit faisable et il faut que ce soit aussi rentable. On revient sur la question des coûts. On ne fait pas de l'écologie juste pour faire joli. Il faut aussi qu'on soit rentable et que tout le monde ils gagnent, enfin voilà, soit vraiment gagnant-gagnant pour tous. Donc ça, c'est très important. Et donc d'où l'importance d'avoir ces outils d'aide à la décision qui permettent d'arbitrer des meilleures solutions pour son territoire demain.
Donc en 2050, les territoires industriels seront en parfaite symbiose.
Bah oui, j'espère.
Monsieur le maire, un mot peut-être sur les échanges qu'on vient d'avoir, qui sont qui soulèvent peut-être pas mal de problématiques pour les collectivités, pas mal d'échanges possibles avec les industriels, avec les énergéticiens. Il y a beaucoup de discussions qui vont avoir lieu dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir.
Oui, non, je pense que il faut garder espoir. En France, on peut innover, on peut investir. Il y a pas que
et on peut avoir la maîtrise.
Il y a pas que des mauvaises nouvelles budgétaires à la clé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Le but, c'est de trouver des solutions. Les habitants, ils veulent payer moins cher leur chauffage, pouvoir se chauffer l'hiver, pouvoir avoir une vie normale, pouvoir payer son loyer. Donc, si la question de l'énergie, on n'est pas capable de la disposer au cœur de notre politique, nous, publics, en tant que communes, mais aussi les investisseurs, les grands innovateurs d'énergie, on range nos affaires et puis on rentre chez nous, quoi. Donc, en fait, on n'a pas le choix. Ma vraie inquiétude, c'est de se dire, en Europe, on est dépendant parfois d'arbitrages qui ne sont pas à notre niveau. On subit, ça a été évoqué, des réglementations. On va évoluer dans un cadre qui, à mon sens, parfois, nous met des handicaps que nos concurrents n'ont pas. Quand je dis tout à l'heure, on dit à nos habitants, on va faire un effort, on va consommer, on va mettre des panneaux, on va isoler. Mais si tout vient de l'étranger, si tout, votre voiture électrique qui consomme de l'électricité vient hors de l'Union européenne, quelle cohérence on apporte aux habitants, aux citoyens? À un moment donné, il va falloir se mettre en cohérence par rapport à ça. On ne peut pas faire venir d'ailleurs la technologie dont on va dépendre au quotidien. Sinon, on se met dans la main de quelques-uns et à un moment donné, ça va clasher. Donc, comment on arrive à la fois à garantir le pouvoir d'achat, à garantir un mode de vie auquel on tient parce qu'on travaille tous sur notre sobriété, on fait tous des efforts, sans qu'on ait des accidents entre guillemets industriels sur ce qu'on nous propose, parce que pour le coup, l'habitant, il n'a pas trop le choix, il prend la voiture qui est chez le concessionnaire. Et c'est là que je dis, attention, il faut qu'on continue à investir. Il faut qu'on continue à être innovant. Sinon, on va se faire croquer directement par les concurrents et les géants asiatiques. Alistair. J'ai rien contre l'Asie. Hein.
Non, non, non.
J'adore.
Non, bah, moi, je peux juste que rebondir en disant, bah, en plus de ce que vous dites, ça, c'est évidemment très juste. Et en plus de ces atouts qu'on a en France, on a aussi des expertises très fortes, des savoir-faire très forts, des entreprises qui savent faire. C'est le cas d'EDF.
Et une volonté très forte.
Voilà, exactement. Une volonté très forte d'accompagner les territoires, d'investir dans cette transition énergétique, d'être en capacité de la mener, nous, EDF, mais aussi de donner les moyens aux collectivités, aux entreprises et aux habitants de faire cette transition énergétique. Ça fait peur, mais en fait, il y a plein de petites actions qui peuvent être menées sans forcément qu'elles soient très coûteuses. Il y a plein de choses à faire pour commencer. On est là pour accompagner. Et effectivement, vous pouvez compter sur nous pour accompagner au mieux les collectivités ici présentes ainsi que l'ensemble des acteurs qui ont envie de mener à bien cette transition énergétique. On sera en rendez-vous.
Accompagner pour mettre en place des économies vertueuses, circulaires, vertueuses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alison Marquis. Vous êtes directrice territoire et solutions énergétiques chez EDF. Merci beaucoup, Solène Le Bourdiec. Vous êtes ingénieur chercheur et chef de projet R&D chez EDF. Et merci beaucoup, monsieur le maire Julien Chambon, maire de Houille et conseiller départemental des Yvelines.
Merci.
Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tous.
Le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.